Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Mélanie Hugon-Duc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du musée de Bagne depuis quelques mois, une année. C'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous dans cette institution, dans ce musée dont on va évidemment parler. Je voulais comprendre un petit peu votre parcours, comment on devient directrice de musée, quel est le parcours qui amène finalement à ce goût de la conservation et ce destin-là.
Alors c'est vrai que c'était un destin qui n'était pas prévu au préalable. J'ai jamais rêvé d'être directrice d'un musée, mais c'est vrai que j'ai suivi un cursus à Lausanne, à l'université de Lausanne en sciences humaines, et ensuite j'ai fait un tout petit peu d'assistanat en anthropologie de la santé, et je m'étais inscrite pour faire un doctorat que j'ai arrêté. Et j'ai rencontré un ethnologue, Werner Bellwald, qui m'a un tout petit peu sensibilisée au musée en faisant le musée de Viona. Et quand j'ai découvert ce médium du musée, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment l'outil parfait pour discuter de toutes ces questions que soulève l'anthropologie et aussi son lien assez fort à l'ethnologie du Valais. Donc il y a des approches différentes, mais qui sont étroitement liées.
Vous avez déjà utilisé deux mots qui m'intéressent, anthropologie, ethnologie, on pourrait rajouter sociologie. Je suis sûr que dans beaucoup de cerveaux, ce sont des mots qui s'entrechoquent, on ne comprend pas bien la nuance qu'il y a entre ces différentes sciences.
Alors c'est vrai qu'entre la sociologie et l'anthropologie, la sociologie c'est un tout petit peu l'étude des sociétés, et c'est vrai que l'anthropologie elle a cette méthodologie particulière qui est l'observation participante, c'est-à-dire de s'intégrer dans des mondes qui sont pas trop familiers, mais qui peuvent être aussi en Occident. Mais les débuts de l'anthropologie, c'est plutôt sur des terrains exotiques. Et où il y a
aller découvrir les tribus
exactement,
d'Amazonie, etc.
Et puis toute cette découverte de ce qu'on disait primitif, mais qui est en fait des effets de comparaison.
Et aller y passer du temps.
Passer du temps pour justement se confronter à un monde différent et essayer de faire des parallèles. Et donc il y a cette différence-là avec la sociologie, et ensuite l'ethnologie c'est plutôt des écoles de pensée entre l'Europe et les États-Unis. Mais c'est vrai que par exemple, je trouve qu'il y a un exemple qui est assez parlant, c'est de dire qu'il peut y avoir par exemple dans le patrimoine, dans les régions alpines, une ethnographie. Ça veut dire que c'est des gens qui par exemple vont dans un village et s'intéressent à la généalogie, alors ils vont vraiment écrire vraiment précisément que c'est la généalogie. Ensuite, l'ethnologie, elle monte un tout petit peu, elle sort en fait de ce thème très très précis. Et l'anthropologie, c'est vraiment une vision plus globale qui essaye de lier local et global, qui essaye d'interroger, de déconstruire les mots mêmes qu'on utilise dans la description, etc.
Les régions de montagne, par exemple, si on pense à l'anthropologie ou à l'ethnologie des régions de montagne, on va pouvoir se rendre compte dans le matériau, les pratiques, que dans les Pyrénées et dans les Alpes, par exemple, il y a des correspondances, qu'on a abordé la montagne de la même façon. C'est grâce à des études de terrain et à la prise de hauteur aussi qu'on peut se rendre compte de ça.
C'est vrai que le territoire de la montagne, c'est un territoire qui a été énormément investigué par les ethnologues, et c'est très intéressant de voir ces différentes couches d'analyse qu'il y a et qui répondent chaque fois à un présent. Et c'est vrai que les ethnologues en Valais, c'est intéressant de penser qu'il y a beaucoup d'anthropologues américains qui sont venus ici, par exemple à Turbel, qui ont étudié les réseaux de communs, de façon dont les Alpins géraient les ressources collectivement. Et c'est toujours une ethnologie qui s'est portée sur les zones périphériques. Donc il y a très très peu d'ethnologie sur l'industrie, sur les zones plutôt urbaines du Valais. Et c'est vraiment une ethnologie quelque part de l'autarcie. Et il y a tout cet imaginaire ensuite qui vient de ça, à savoir qu'on pense que c'est des zones qui sont autarciques. Les gens, il n'y avait pas de mobilité, ce qui est totalement erroné si on regarde des recherches historiques. Mais les ethnologues
si on est sur le temps long, on traversait les Alpes à l'époque des Celtes, probablement avant, il y avait des contacts.
Il y avait des mobilités qui étaient très très régulières et c'était pas du tout des gens qui vivaient en autarcie, renfermés sur eux-mêmes. Par contre, c'est quelque chose qu'on a beaucoup projeté sur eux. Les ethnologues venaient pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est une culture. Et comme c'était des petites communautés, ils disaient, ah ben là, on va avoir plus de facilité à comprendre. Et ça, ça a aussi beaucoup nourri tout l'imaginaire qu'on a des montagnes. Donc c'est aussi intéressant de voir l'influence des ethnologues sur les imaginaires alpins qu'on peut retrouver dans le tourisme, qu'on peut retrouver dans des domaines associés.
J'ai lu des interviews de vous où vous... parce qu'on vous posait la question, vous recentriez, vous décentriez peut-être votre discipline sur les autres êtres vivants. Anthropos, c'est l'homme, ethnos, c'est le peuple, socios, c'est la société. Toute la science humaine, finalement, comme son nom l'indique, est basée sur l'homme, centre du monde. Est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui à se dire, cette construction de l'humanisme s'est faite peut-être un peu au détriment des autres êtres vivants ? Et est-ce que l'ethnologie ou l'anthropologie, qui est votre domaine, commence à s'y intéresser?
Alors, ça, oui, clairement, il y a énormément de penseurs, penseuses qui, au moment où on est actuellement, où il y a cette crise écologique, il y a aussi toute cette remise en question des paradigmes et de la relation entre l'être humain et la nature, ce qu'on a appelé la nature, et ça permet justement de tout rediscuter. C'est vrai que c'est des sujets qui sont passionnants pour les personnes intéressées. Je vous conseille de lire des gens comme Descola, comme Vinciane Després, qui justement montre comme l'être humain il se pense omniprésent et qu'on a l'impression qu'on vit dans un environnement et en fait que ces milieux-là qu'on n'accorde pas d'antériorité par exemple à l'animal, on pense qu'il n'a pas de réflexion, qu'il n'a pas d'âme, etc. Et ça génère toute une relation en fait au milieu dont on voit certains exemples aujourd'hui.
Moi, j'avais vu une conférence assez fascinante sur le fait que l'humanisme, qui est quelque chose de très positif, essayer de démontrer que les hommes ça débouche sur l'égalité, sur les droits de l'homme, etc., se construit contre l'animal finalement parce qu'il faut déterminer l'homme et l'homme c'est pas l'animal. Donc il y a tout un rapport de sauvagerie, y compris chez les philosophes les plus lumineux, des Lumières. On va laisser ça. Quand on est passionné par ces sujets, vous le disiez en début de cet entretien, un musée c'est le lieu parfait parce que c'est un lieu de conservation, puis ça va être aussi, ça dépend ce qu'on en fait, mais c'est le cas ici, un lieu de discussion, un lieu de débat.
Ce qui est très intéressant, c'est que c'est des pensées parfois qui peuvent paraître un tout petit peu compliquées parce qu'on interroge les modèles avec lesquels on pense, les représentations qu'on a. Mais en même temps, l'exposition, c'est vraiment un espace de médiation où, quelque part, notre rôle, c'est d'inviter les gens à rentrer dans des espaces qui ne sont pas des livres. Et il y a aussi tout le ressenti sensible. Et on doit, quelque part, amener les gens à comprendre la pensée sans beaucoup lire, en regardant, en s'interrogeant sur ce qu'il y a autour de soi. Et c'est aussi beaucoup de collectifs, parce que c'est vrai que au musée on est une petite équipe, il y a une conservatrice, moi une médiatrice, mais après pour l'exposition on travaille avec un scénographe qui est Geoffroy Buté, donc il y a tous ces partages, il y a des artistes invités, des contributeurs, des contributrices, et avec toute cette petite population on essaye de tirer un fil et c'est quelque chose de très magique à faire.
Petit musée, mais musée total à la fois de la conservation, donc il y a des collection d'objets, d'œuvres d'art. Il y a aussi l'art contemporain, puisque vous invitez des artistes contemporains. Cet aspect conservation, c'est pas anodin d'aller prendre des tabourets, je dis n'importe quoi, mais des objets usuels de la vie de la montagne, des siècles passés, et puis de décider de les conserver. Ça date de quand, cette idée-là ?
Ah, totalement. Alors, les musées régionaux, en tout cas le musée de Bennes, ce qui est intéressant, c'est que la collection, elle s'est constituée en même temps que les personnes qui ont fondé le musée ont voulu le faire. Donc c'est vraiment en même temps que ça a été pensé. Et c'est vrai qu'ici, par exemple, c'était des gens qui travaillaient à la commune ou des élus politiques, il y a vraiment des appels à la population. Donc de dire, si vous utilisez plus ces outils-là, ces objets-là, venez nous les proposer. Donc on voit que le patrimoine, il est le résultat d'une crise, d'un changement de société. Et d'ailleurs, au sein de la collection du musée de Bagnes, il y a beaucoup d'objets liés à l'agropastoralisme, à la paysannerie, avant la mécanisation.
Donc c'est les machines qui ont rendu ces instruments obsolètes.
Exactement, c'est oui. Dès lors qu'on ne les utilisait plus, il y avait vraiment cette idée de gardons-les pour ne pas oublier les pratiques. Mmh. Et après, ces pratiques-là, ces objets-là, ils ont aussi été abondamment repris dans l'image du tourisme, qu'on pense à la fabrication du fromage, et ça devient un tout petit peu des objets génériques pour dire « Ah oui, aujourd'hui, la modernité, mais avant, regardez comment se débrouiller. »
Oui, peut-être quand il n'y aura plus de pétrole, on les réutilisera. Hein.
Voilà. Mais c'est intéressant de penser le patrimoine comme quelque chose qui est le résultat de la crise. Parce que ça nous aide aussi à... Il y a souvent une vision assez nostalgique, passéiste, qui est portée sur ces objets. Et de les voir comme le résultat d'une crise, ça engage d'autres dynamiques de lecture, j'ai l'impression.
Bon, c'est un musée multiple. Hein. J'ai vu musée éclaté. Hein. C'était les mots du fondateur de ce musée de Bagnes. Parce qu'il y a le musée au village... On y est, mais il y a des sites comme ça, patrimoniaux, qui font partie du concept.
Oui, là, il y a dans le Val de Bagnes, l'idée, c'était d'avoir un endroit. C'est vrai que le musée de Bagnes, c'était vraiment le musée toit, en fait, abrité. En fait, il disait, on veut donner un avenir au passé bagnard. Et ensuite, il y a des maisons du patrimoine qui présentent des espaces permanents et qui relayent plutôt des pratiques artisanales disparues. Donc, il y a la forge oreiller, il y a scie et moulin. À Sarayer, il y a la maison de la pierre Roller, la maison des glaciers. Donc, ils sont des sites où on ne change pas l'exposition, en tout cas pas chaque année, permanente,
ouais.
Et qui sont ouvertes l'été.
D'accord, pour le tourisme d'été. Mais il y a cette idée, moi j'ai vu justement ceci, par exemple sur la pierre Roller. Hein. La pierre Roller, c'est quelque chose, dans toutes les vieilles maisons, on a le four en pierre Roller, ça servait à se chauffer, et on n'a pas souvent la connaissance du fait qu'il y avait là un artisanat non seulement pratique, mais aussi esthétique. Hein. On allait vers des beaux objets en fait.
Oui, tout
c'est
à
ça
fait.
Qu'on conserve.
Oui, et puis aussi il y a toute la relation aux carrières de Pierre Roller. Donc ici c'était une industrie, industrie entre guillemets, mais qui fonctionnait très très bien, où les fourneaux en Pierre Roller que les gens d'ici appellent bagnards.
Ah bon,
voilà.
L'appropriation.
Voilà, exactement.
Alors, je peux leur dire qu'il y en a ailleurs. Hein.
Il y en a ailleurs, mais ici, ça s'appelle, les gens l'appellent les bagnards. Et voilà, il y a tout cet artisanat. Et ce qui est intéressant avec le pierre Roller, c'est qu'il y a certaines pratiques artisanales qui ont disparu. Qu'on pense par exemple à la forge. Il y a encore des forgerons qui font des sonnettes pour les vaches, mais c'est le fourneau pierre Roller, il est resté. Les gens se le réapproprient, les réparent. Maintenant, alors c'est vrai qu'il vient beaucoup d'autres pays, la pierre vient d'autres pays, mais c'est un mode de chauffage qui est resté pérenne.
Et qui revient peut-être avec les problèmes de prix de l'énergie, etc.
Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est très jolie. Armand Bruchet, qui était un fabricant de pierre Roller, qui était à Champsec, quand il y a eu l'installation des chauffages centraux, il a eu l'idée de mettre un corps de chauffe dans le fourneau à pierre Roller pour que les gens le conservent. Donc on voit aussi tous ces jeux de réadaptation, d'innovation quelque part, de trouver des solutions.
On va faire vivre ça dans la deuxième partie de cette émission en parlant des tâches et des buts de ce musée de Bagnes. On se retrouve